Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci à Dominique. Je ne pensais pas lire un livre aussi qui secoue à ce point. Voilà. Dire qu'on prend du plaisir à lire ce livre, ben non, ce n'est pas vraiment très plaisant. Je n'ai pas l'habitude des tribunaux. Je n'ai jamais tué personne, je vous l'avoue. Je ne suis pas... Enfin bref, c'est un texte qui secoue. Le but de la soirée, c'est de vous donner envie de lire ce livre, de vous donner envie de le partager et de partager ce qu'a voulu dire Dominique. Je vous appelle Dominique, madame l'avocate générale.
Mais je vous en prie, je ne suis plus avocate générale d'abord, je suis à la retraite. Donc, et puis c'est très cérémonieux entre nous.
Bon. Même, voilà. Très bien. Je commence, je prends des notes parce que c'est vrai que c'est un livre qui cache bien son jeu finalement. Bravo, beau travail d'éditeur pour un premier roman. La cabane en bois, commençons par le titre, vous qui êtes lecteurs avisés. Vous savez que souvent les éditeurs choisissent les titres pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec la littérature et quelquefois même avec la volonté de l'auteur. La cabane en bois, donc, la voici architecturée par la plume de l'auteur, Dominique Auflac. À droite, tout au bout d'une large allée herbeuse et ombragée, un peu en retrait de la route, je visualise déjà la cabane en bois, dissimulée au regard sous la ramure touffue de deux grands arbres. Le portail sera bien sûr, comme à l'accoutumée, fermé par la chaîne rouillée, à gros maillons, avec un cadenas à son extrémité pour prévenir toute intrusion. Il faudra que j'escalade avant de retomber sur le terrain en friche, envahi par les ronces et les herbes folles, où je devrais enjamber un amoncellement hétéroclite de bassines en plastique, de bidons d'huile, de vieux moteurs de voitures et de tondeuses, de matériel de jardinage sur lesquels une nuée de canards s'ébat en nasillant. Alors, il est normal de commencer par ces quelques lignes, car après tout, ce soir, nous sommes réunis pour échanger sur un livre. Parce que cette cabane en bois que vous avez sûrement vue, sans la voir, du côté du Puy-en-Médoc ou d'ailleurs, est le centre de l'intrigue, du récit, le lieu du destin, du basculement d'une vie. Elle est la scène de l'horreur, elle est terrifiante. C'est un lieu infernal. C'est là que Johan, l'homme qui se confie à nous dans les chapitres du livre, c'est là qu'il va connaître le pire, le désespoir, que sa vie va se briser. Banale expression, j'ai pas trouvé mieux. Quoi de plus banal, insignifiant qu'une cabane en bois, en ruine, déglinguée, et qui pourtant recèle ce qu'il y a de plus terrible, la souffrance infinie autant que quotidienne, et donc intolérable, d'un être humain. La cabane en bois, comme on dit dans mon métier, c'est un bon titre, qui colle bien au sujet. Bravo. Et le sujet, je pense que ce serait une erreur, mais on peut en parler, nous sommes là pour ça, une erreur d'imaginer que finalement ce sujet pourrait ne pas être vous, Dominique Auflac. L'auteur, vous, dans votre fonction, ce livre, ce dont il parle, son contenu, ses personnages, les réflexions qu'il nous propose de lancer, sa raison d'être, l'ouvrage même qui le précède, femme bourreau, femme victime, le moment où vous l'écrivez, tout cela fait qu'au fond, le vrai sujet de vos livres, ou plus exactement le sujet auquel vous nous renvoyez, c'est celui de la justice, donc de l'injustice, c'est-à-dire de la souffrance imposée, combattue, punie, peut-être pardonnée.
Plusieurs questions ?
Oui.
La première, c'est, je suis Johan, j'ai volontairement écrit la première personne et non pas sous la forme de quelque chose d'abstrait et d'abscond. Je me suis mise dans la peau du personnage, que j'ai visualisé en cours d'assises évidemment, parce que vous avez compris que c'était une affaire réelle. J'ai voulu rentrer carrément au sein de son inconscient, au sein de ses tripes, au sein de son parcours d'enfant violé, pour restituer non seulement les émotions que j'avais ressenties lors de ce procès, mais pour restituer exactement, vis-à-vis des lecteurs qui me liront, ce que peut ressentir un gosse qui subit à son âge cette espèce d'horreur qui s'appelle le viol. Alors, c'est pas que la justice. C'est pas que la justice, vous l'avez compris. C'est surtout l'introspection qui m'intéresse dans ce livre. L'introspection au tréfonds de l'âme d'un être humain, ses échecs, ses passions, son parcours professionnel difficile, escamoté par un viol trop tôt subi. Et tous ces échecs, toutes ces passions, tous ces cauchemars, toutes ces réminiscences au sein de son esprit, m'ont interpellé et m'ont fait revivre ce qu'il avait pu ressentir. Et c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai voulu plonger carrément dans cette histoire en m'impliquant personnellement.
Est-ce que vous pourrez revenir sur votre carrière, sur ce que vous avez fait, de manière à ce qu'on comprenne l'aboutissement de ce livre? Parce que moi, je vous ai connu quand vous avez écrit votre premier livre. C'était quelques... Alors, il y avait un petit créneau, quelques semaines avant que vous ne preniez votre retraite. Et c'était... Vite, j'arrête. Et après, je peux parler de mes livres. Et puis, je commence... Il y a quand même quelque chose là derrière.
Si vous voulez, quand on a été avocat général, bon, avocat général.
C'est quoi c'est un avocat général déjà c'est quoi le métier
C'est un magistrat qui est l'équivalent d'un procureur de la République devant un tribunal de grande instance. C'est très schématisé ce que je dis. Un avocat général, c'est l'appellation que l'on donne aux défenseurs de la société. Un avocat général requiert devant une cour d'assises. Un avocat général ne s'occupe que des crimes, c'est-à-dire assassinat, meurtre, vol à main armée, viol. Et un avocat général. Et le représentant surtout de la société, et il réclame évidemment une peine au nom de la société. Voilà, schématiquement c'est ça. Il est évident que lorsqu'on a eu une carrière de 30 ans de cour d'assises, on est imprégné. On est imprégné par tous ces visages que l'on a côtoyés, on est imprégné par toute la douleur humaine que l'on a côtoyée également. On est imprégné par... par toute cette tristesse qui envahit dès qu'on passe le seuil de la cour d'assises. Il est évident que c'est un métier difficile, dur, humainement très dur.
Inhumain.
Surtout si vous voulez, quand on se
met... On arrive sur les rotules, en fin de carrière.
Non, je ne suis pas sur les rotules,
enfin, moi, quand je vous lis, quand on
pas lit... Pas tout à fait, je peux encore écrire, donc... Si vous voulez, pour moi, ce qui est important, c'est l'intellect. Bon, vous l'avez compris. Et quand vous avez eu un métier aussi passionnant, aussi varié, aussi émouvant, vous ne pouvez que, à la retraite, d'abord déplorer d'avoir quitté ce métier, ça c'est clair. Ça fait un grand vide, c'est clair aussi. Et puis, vous retrouvez avec tous ces visages que vous avez côtoyés encore une fois et qui ne peuvent s'exprimer et ressurgir que sous une plume. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, si vous voulez, quelque part, d'écrire. D'abord, ça me permettait d'avoir un recul sur ma vie passée, qui est toujours intéressant. Ça me permettait également, quand je me mets à la première personne dans la cabane en bois, de voir ce qu'il y avait dans le tréfonds de mon inconscient, et de le restituer, et de voir, quand on pose des mots, Thierry, quand on pose des phrases, quand on pose une syntaxe, quand on pose une grammaire, quand on pose des mots, sur ce qu'on a vécu pendant toute une vie, finalement. C'est amusant, parce que on décrypte à nouveau les actes qu'on a commis, on décrypte à nouveau les sensations qu'on a connues, on décrypte à nouveau les personnages qui ont défilé dans votre vie. Et c'est passionnant.
Oui, enfin, c'est passionnant, c'est amusant. Je ne sais pas si c'est vraiment amusant. Enfin, quand on lit La cabane en bois, ce n'est pas fondamentalement amusant. Femme bourreau, femme victime non plus, vous trouvez ça amusant, mais c'est peut-être une manière de détourner...
Non, mais attendez. Vous me dites que ce n'est pas amusant.
Moi, je ne me suis pas marré pour parler familièrement.
Attendez. Il est clair et net que moi, tout ce qui est fade ne m'intéresse pas. Voilà. Il est clair et net aussi que lorsqu'on prend des romans à l'heure actuelle, bon, qu'on les ouvre, écoutez, moi je veux bien, hein, une grue qui se balade dans le salon, une femme déjantée, etc. Bon, c'est les romans à l'heure actuelle. Bon, moi je veux parler de la société. Je veux parler des cas les plus importants sur lesquels on devrait se pencher, nous, habitants du XXIe siècle, en France. Et je veux parler du viol, parce que le viol est banalisé, parce que le viol est la partie pauvre de la cour d'assises, c'est le parent pauvre, hein, voilà. Et puis que le viol, quelque part, c'est très injuste. Pourquoi ? Parce que ça se passe à huis clos, et que c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, et que souvent cette parole de la victime, on ne l'entend pas.
Alors on y arrive, voilà. Vous me tendez la perche pour aller vers le contenu du livre, vous voulez plus qu'on parle de vous, mais on va y revenir, vous savez, je n'ai pas lâché le morceau.
ça je sais, je vous connais. Ouais.
Ah oui. Bon, est-ce que ça rajoute quelque chose de dire que c'est une histoire vraie ? Vous savez, souvent, on voit inspiré de faits réels.
Non.
Est-ce que c'est important ? Parlons de la démarche littéraire.
Mais bien sûr, c'est important, parce que les gens ne s'imaginent pas qu'à côté de chez eux, lorsqu'on ferme la porte du domicile familial, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a un enfant violé en France toutes les 3 minutes, il faut le savoir quand même. Bon. Alors voilà, ça c'est la réalité. Il y a 150 000 victimes en France de viol des enfants, des adolescents. Et il y a toute cette problématique du violeur et du violé surtout du violet, qui réitère plus tard à l'âge adulte les actes qu'il a subis, souvent. Bon, donc il y a tout un problème social qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas ignorer. Il y a tout un problème de société, mais il y a également cette espèce de pathologie des enfants violés qui ressurgit n'importe quand, à l'adolescence, à l'âge adulte, et qui peut se traduire par des actes extrêmement violents. Donc on a quand même ce paramètre de la violence en France. Ce paramètre de la violence en France s'explique aussi par le mal-être de tous ces enfants qui ont subi des saccages dans leur petite enfance.
Bon, ça fait un bon chapeau, après le titre, hein, La cabane en bois. On revient sur l'ouvrage. Moi, je ne veux pas le raconter, parce qu'il faut le lire. C'est vous qui allez le faire.
Sans tout dévoiler.
Non, mais jusqu'à la fin, c'est haletant. Jusqu'à la fin, on se dit, tiens, mais comment ça va se finir? Le suspense est là.
Johan a 12 ans.
C'est son vrai nom.
Il a un peu changé.
D'accord.
Dans l'orthographe. Donc, Johan a 12 ans. Il vit sa vie de gosse de 12 ans, comme tous les gosses de 12 ans. Il est insouciant. Il est rieur. Il adore les parties de pêche avec son père. Son père, un jour, le présente un homme des bois, assez frustre, ancien maraîcher au Fort des Halles, vivant seul, comme un ermite, dans une cabane en bois. Cet homme se prend de l'amitié pour Johan, va plus loin que sur le chemin de l'amitié. Il invite à passer une soirée chez lui, en disant au père, il sera à proximité de l'étang, et comme ça, il pourra pêcher avec moi le lendemain. Les abus sexuels, évidemment, puisqu'il n'y avait qu'une couche dans cette cabane, un seul lit, se perpétue. Johan y retourne, malgré lui. C'est curieux, pour une victime d'ailleurs, cette attractivité de son violeur. C'est curieux. Parce qu'on dirait que le champ s'est rétréci, le champ de cet enfant s'est rétréci, et qu'il ne pense plus qu'à ça, et qu'il ne pense plus qu'à l'image de René le violeur. Et puis, c'est ensuite, évidemment, toute sa vie, qui se passe sans un mot à ses parents, sans un mot à son entourage, comme tous les enfants violés d'ailleurs qui ne reprennent la parole sur leur viol qu'au bout de 15 ans en moyenne. C'est le secret qu'il dissimule au fond de son mal-être. Et puis, c'est toute sa vie qui s'étale, évidemment, avec ses amours malheureuses. Le fait qu'il ne veut plus qu'on touche son corps, parce que il est complètement sur le plan sexuel, il est complètement disjoncté.
Vous décrivez ce calvaire longuement, hein.
Alors sa profession, c'est pareil. Il a des ennuis avec ses employeurs.
Il se fait virer d'ailleurs dès le début.
Il se fait virer, hein,
il travaille la nuit, puis là, il tient plus.
Il est dans un trou noir, en fait. Permanent. Bon. Un soir, il se place devant la télé, parce qu'il adore la télévision. C'est substituer une réalité à une autre réalité, d'une existence. Et alors, devant la télévision, il voit l'effet papillon sur l'écran. Un film où se déroulent, évidemment, des scènes pédophiles. Et là, tout remonte à la surface. Tout remonte à la surface depuis l'inconscient. C'est le déclic. Il part sur les routes et il va à la recherche de son violeur. Je vous ne dévoilerai pas la suite.
Tout ce que vous avez écrit, bien sûr, c'est le fruit de vos observations quand vous étiez avocate générale. Vous étiez quoi ? Psychologue, policier, médecin. Comment on analyse tout ça ?
On fait ce qu'on peut d'abord. En face d'une violence telle, on fait ce qu'on peut. On essaie de se comporter comme on peut. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de juger en fonction, évidemment, de l'approche intime de l'auteur des faits. C'est de juger en fonction de son parcours, c'est de juger en fonction de son moi intime. Et ça, c'est difficile parce que quand on est avocat général, on n'a qu'un dossier papier, on ne rencontre pas l'auteur des faits avant l'audience, et donc on a une vision qui est tronquée et qu'on ne retrouve que face à l'intéressé au cours de l'audience.
De votre point de vue, Dominique, la mécanique du viol, c'est quoi ? D'abord, du point de vue du violeur, comment ça se passe dans la tête ? Pourquoi est-ce qu'on viole ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher là-dessus ? Vous le décrivez, hein, d'une certaine manière dans ce livre, mais votre point de vue plus complètement.
C'est difficile, Thierry, de se mettre à la place d'un violeur. Ceci dit, je suppose que c'est une accumulation de frustrations sexuelles. C'est une accumulation de représentations. C'est une accumulation, peut-être aussi, d'émotions. C'est une accumulation également de scènes pédophiles ou d'attirance pour les gosses ou d'attirance pour la pédophilie, parce que ces gars-là sont attirés, c'est évident. Évident, ils sont désirés par les gosses. Bon, ils naissent comme ça.
C'est souvent. Quoi la mécanique ? Ils naissent comme ça, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eux-mêmes ont été violés.
Ils peuvent être comme ça, ils peuvent avoir été violés, ils peuvent avoir subi des abus sexuels par des hommes durant leur enfance, ils peuvent avoir une mère possessive, ils peuvent qui les fait complètement basculer, ils peuvent avoir eu des attirances dans des collèges, des attirances commises par des prêtres, hein, voilà, etc., etc. J'en passe des meilleurs. Bon, voilà. Donc, si vous voulez essayer de canaliser l'esprit d'un violeur, c'est extrêmement difficile parce que chez chaque violeur, il y a une problématique différente, une problématique psychologique ou psychiatrique différente. Et puis, on ne peut pas, si vous voulez, d'emblée, hein, décrypter un violeur en disant « c'est un stéréotype, il est comme ça, il est comme ça ». Non, ce n'est pas possible.
Alors, question connexe, comment on fait pour juger un violeur ?
Alors,
quand on est en face de soi,
alors, il
à
faut
la
savoir.
Cour
d'assises, il faut savoir, si vous voulez, que tous les violeurs, de toute façon, ni les faits. Bon, c'est jamais eux. Donc, on a à notre actif, en tant que magistrat du parquet, des études psychologiques sur la victime et l'auteur des faits. On a à notre actif des études psychiatriques. On a à notre actif la parole, qui est très importante, notamment la première parole qui s'exprime lors de l'enquête de police et qui est significative souvent de la culpabilité de l'auteur des faits. Il faut savoir décrypter une parole de violeur. Il faut savoir qu'un violeur s'entoure souvent de sa famille. Apparaît comme...
Il s'entoure de sa famille ?
De sa famille, lorsque le viol se passe à l'intérieur de la famille.
Ouais, ouais. Il est protégé par la famille.
Il est protégé par la famille.
Il
ne veut pas.
C'est important ce que vous dites là.
Il ne veut pas de contact avec l'extérieur pour éviter que sa victime ne puisse parler. Il l'entoure énormément. Il la protège énormément. Il lui fait souvent des cadeaux. Il est jaloux. Lorsque sa petite victime a des connaissances en dehors de la sphère familiale, il y a tout un comportement du violeur qui est tout à fait significatif. Il agit toujours en bon père de famille. Il se présente comme le rassembleur de la famille. Et il insiste là-dessus. Ce qui est significatif chez nous, magistrats, qui avons l'habitude de ces affaires. Et puis, il faut évidemment décrypter la parole de la victime. La parole de la victime, avec ses hésitations, avec souvent son absence de mémorisation des faits, ce qui est très difficile pour nous, parce que, si vous voulez, un enfant violé se remémore les faits qu'il a subis par flash, des années après. Donc les flashs sont souvent très flous, les flashs sont souvent pauvres de détails, ce qui fait qu'on est obligé quand même d'interroger la victime plusieurs fois, et les avocats évidemment s'engouffrent là-dedans en disant « attendez, c'est une victime qui n'est pas crédible, c'est une victime qui a changé de version, c'est une victime qui a changé la réalité des faits ». Et donc c'est très difficile pour nous ensuite de remonter le courant pour établir évidemment la réalité de la victimisation.
Vous avez eu beaucoup d'affaires de viol à juger ?
Ah oui, c'est le pain courant, disons, de la cour d'assises, les viols.
Est-ce que la mécanique du viol d'un enfant, un viol pédophile, est la même que pour le viol d'une femme qu'on rencontre comme ça, ou que vous décrivez dans votre précédent ouvrage ? Ça obéit pas au même moteur chez le violeur ?
Non, c'est pas pareil.
C'est quoi ? Quelle est la différence ? Qu'est-ce qui se passe dans ses têtes ?
Ce qui se passe dans
leur tête. Vous ne savez pas. Vous ne le savez pas encore aujourd'hui. Ouais.
Ce qui se passe dans leur tête, non, je ne sais pas vraiment. Un viol pédophile, c'est un viol quand même qui révèle une pathologie, c'est l'intéressé. Une pathologie très problématique, dans la mesure où ce n'est quand même pas, si vous voulez, courant qu'un homme s'intéresse à une gamine ou à un gamin. Bon. c'est pas dans l'ordre des choses. C'est pas dans l'ordre naturel des choses et de notre conception judéo-chrétienne de la sexualité. Bon. Alors qu'un homme viole une femme sous l'impression d'une pulsion irrésistible, je le comprendrai plus facilement, je dis bien plus facilement, avec des guillemets, qu'un homme qui se tourne vers des enfants. Là, c'est absolument ignoble. Mmh. Ignoble.
Et quand on parle de violence d'un mari sur sa femme aussi, de femmes qui subissent ce viol domestique, j'allais dire...
Est-ce je vois que vous voulez en venir.
Oui, un peu, ouais.
Oui. Oui, alors attendez.
Ça existe aussi, enfin on commence à alors, en parler
viol,
en tout cas.
Le viol entre époux existe, effectivement. Mais évidemment, il est perçu par les jurés de cour d'assises comme quelque chose de moins grave que le viol sur un enfant tout de même. Hein. Bon, voilà.
Est-ce qu'on sait quoi en faire des violeurs? Qu'est-ce qu'il faut en faire d'un violeur? Est-ce qu'on peut le soigner? Est-ce qu'il y a une rédemption possible? Est-ce qu'on peut lui pardonner? Qu'est-ce qu'on doit faire?
J'ai assisté à Lille. J'ai assisté à Lille parce que j'étais de permanence au parquet au viol du petit tennis. Vous en avez entendu parler évidemment avec ce prédateur sexuel qui se promenait dans la braderie de Lille et qui avait été condamné 4 fois déjà à de la réclusion criminelle pour avoir agressé des enfants et des adolescents. On l'a laissé sortir. C'est la mode, hein, voilà. Le juge d'application des peines, qui devait le suivre, a zappé sur son suivi, ce qui fait qu'il s'est retrouvé dans un hôtel à Lille et qu'il a enlevé le petit tennis âgé de 5 ans, qu'il s'apprêtait à violer au moment où j'ai donné l'ordre aux forces de police d'enfoncer la porte d'un garage parce que je sentais qu'il était là. Voilà. Et il allait le tuer évidemment aussi puisqu'il avait une cordelette et un couteau. Bon. Je vais vous dire, les prédateurs sexuels, les soignés, d'accord, il avait subi des cures, hein, des cures. Pour
de castration chimique.
Ouais. Alors, vous ne pouvez pas être derrière chaque violeur à répétition, chaque serial killer, avec une surveillance. Quand il est en semi-liberté, quand il sort, est-ce qu'il prend sa castration chimique? C'est tout le problème. Mmh. C'est tout le problème. Alors, il avait en plus demandé... Je m'en souviens, alors ça c'était ahurissant. Il avait demandé au médecin de la maison d'arrêt du Viagra. Et le médecin de la maison d'arrêt pensait que c'était pour sa compagne. Parce qu'il croyait qu'il avait une compagne. Voilà. Et alors il s'est servi du Viagra, évidemment, pour le petit tennis. Voilà.
Vous êtes assez... Enfin, moi j'ai trouvé ça assez critique, le portrait que vous faites de la cour d'assises, le procès, avec... des rebondissements, on entendrait presque les portes claquer, quoi. C'est pas un vaudeville, hein, c'est un peu extrême.
La cour d'assises,
mais la justice, l'exercice de la justice ne sera pas grandi quand même. Hein. Vous êtes assez critique.
Vous savez, j'en suis revenu. Oui, j'en suis revenu. Il y a des postures. Il y a des postures au sein de la justice. Vous avez la posture du fa, qui s'imagine être détenteur de toutes les vérités dans ce monde. Vous avez le portrait du journaliste dont vous faites partie, qui s'enquiert fiévreusement du scoop qu'il pourra relater. Vous avez le portrait des retraités qui sont dans la salle, qui sont là pour se stariser un petit moment, pour subir les feux de la rampe, pour subir les feux de la rampe, pour se redresser face aux photographes, pour se sentir investi d'une mission d'un jour, qui est celle de traquer dans la salle avec leurs yeux fiévreux la petite anecdote qu'ils pourront raconter à leur concierge le lendemain. Enfin, c'est passionnant, la cour d'assises, c'est passionnant. C'est une scène de vie. Une scène de vie peut-être à part, une scène de vie peut-être entre parenthèses, mais une scène de vie tout de même.
Ouais, enfin, je vous dis ça, c'est presque du domier. Non, si je vous dis ça, c'est pas pour faire le énième procès de la justice. Je m'en garderai bien au contraire. Mais simplement pour savoir, est-ce qu'on a les moyens de traiter cette problématique du viol? Et là, visiblement, on se rend compte que l'enquête, on amène un coupable.
Alors attendez, vous avez des campagnes pour les femmes battues sans arrêt. Bon, très bien. Avec un numéro vert, on imagine mal d'ailleurs qu'une femme complètement esquintée par son compagnon puisse prendre son téléphone et calmement relater ce qu'elle a subi. Enfin bon, ça c'est une autre paire de manches. Vous avez des campagnes pour tout, pour le cannabis hier soir, hein, pour la légalisation du cannabis, pour les violences inacceptables que l'on rencontre de la part de l'islam et de ses dirigeants. Bon, voilà. Le viol, qui en parle ? Personne. Personne.
Vous pensez qu'il faudrait faire quoi ? Développer pas. Des campagnes à la télévision ?
Je ne suis pas à la tête de l'État, mais bon, enfin... Je pense qu'il faudrait faire des campagnes de sensibilisation, parce que les parents, quels qu'ils soient, dans tous les milieux d'ailleurs, lorsqu'ils ont affaire, lorsqu'ils sont confrontés à leurs enfants qui ont été violés, ne décryptent pas leur façon de se comporter. Ils s'imaginent, ils mettent ça sur le compte de l'adolescence, ils mettent ça sur le compte de perturbations hormonales, pourquoi pas, voilà, au passage difficile entre l'enfance et l'âge adulte, mais ils ne savent pas qu'un enfant violé manifeste les mêmes symptômes qu'un autre enfant violé, et notamment une espèce de révolte permanente contre les parents, contre l'école, contre les institutions, alors, avec des résultats scolaires lamentables, avec la volonté de passer à l'acte, de commettre des actes de délinquance graves, et les parents ne décryptent pas tout ça.
Oui, alors là justement, on arrive, j'allais dire, au deuxième volet, on a parlé du violeur, on peut revenir sur le violé. Une petite phrase quand même, parce qu'il s'agit d'un livre. Hein. J'ai toujours eu peur de m'endormir. Ça me rappelle quelque chose en mode « longtemps, je me suis couché de bonne heure », pour ceux qui connaissent certains, d'autant qu'après, vous parlez non pas des... Vous parlez des madeleines vendues insipides en gros sachets. Les madeleines, les gros sachets de madeleines industrielles insipides. Donc... Je vais faire l'intelligent.
Ah non, mais la madeleine, vous avez quand même décrypté Proust, hein, quelque part.
C'est la recherche du temps perdu.
Voilà.
Viol. Ah d'accord, merci. Ok, je me suis dit, mais c'est bien parce que... D'accord, j'ai tout bon alors.
Voilà.
Est-ce que la victime est à la recherche du temps perdu ? C'est ça ? C'est ça, être victime d'un viol ?
Il,
parce que vous
décrivez
le moment. Il rate son boulot, il rate sa vie amoureuse, il vit dans une...
Attendez. Ouais. Il veut ignorer le temps.
C'est ça.
Le temps passé. Il est à la recherche du temps futur, sans être vraiment à sa recherche, dans la mesure où il sait que le temps futur ressemblera au temps passé. Il n'est pas dans le temps. Il n'est pas dans le temps. On ne peut pas parler de temps pour Johan. Il n'est pas dans le temps parce que pour lui, le temps s'est arrêté à 12 ans. Mmh. L'horloge du temps s'est arrêtée à 12 ans.
À 12 ans, ouais.
Et quelque part, lorsqu'il entend dans sa tête... Et les balancements d'une horloge, parce que tout gosse est intéressé par le balancement d'une horloge, il sait que ça rythmera sa vie. Quand il entend dans sa tête le balancement d'une horloge, pour lui, c'est l'horloge du désespoir. Ça ne peut être que ça.
Il n'est pas dans le temps, et il n'est pas dans l'espace non plus, dans l'espace de son corps déjà.
Ah non,
vous avez cette
son
phrase,
corps,
vous avez
ah non,
le
non.
désinvestissement du corps.
Oui.
L'horreur de la sexualité, c'est quoi cette mécanique ? Vous pouvez revenir en détail dessus. C'est
alors, un enfant,
de manière passionnante.
Un enfant violé... est toujours en état de sidération. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion mentale qui se fait entre son esprit et son corps, et il abandonne son corps quelque part pour se protéger et pour s'emmurer quelque part aussi, et ne plus subir la souffrance qu'il a ressentie. Il y a une espèce de... une déconnexion totale, oui, mais des espèces de flashbacks qui ensuite se mettent en place avec tout un cortège de punitions du corps par des scarifications, par des tentatives de suicide, par de la boulimie, par de l'anorexie, etc., etc. Mais il y a aussi une punition de l'esprit parce qu'il se sent coupable, au fond de lui d'abord, de n'avoir pas su résister à son violeur. Il se sent coupable de n'avoir rien dit. Il se sent coupable de dégoût. Il se sent coupable de honte, il se sent coupable d'avoir cédé quelque part à son violeur. Et cette parole de l'enfant qu'il tente d'exprimer, il la refoule, il n'a plus de parole. Il la refoule complètement au sein de son inconscient. On assiste également à des événements de mémoire traumatique, avec des épisodes d'amnésie, souvent très longs. Et puis la parole qui se met en route, mais uniquement avec l'émergence de l'inconscient, au bout de plusieurs années, à travers un événement anodin, qui leur rappelle tout d'un coup par flash ce qu'ils ont subi.
C'est la victime qui devient coupable, finalement, hein, là, dans son chaos mental. Elle devient coupable, puisque à la cour d'assises, c'est lui qui est jugé.
Elle est coupable, et c'est uniquement au moment de son procès d'assises, elle se sent coupable, mais de façon absolument incroyable. Et c'est uniquement devant le procès de la cour d'assises que les magistrats, en condamnant son violeur, vont pouvoir exorciser, en quelque sorte, cette culpabilité. Mmh. Pour Johan, le problème est différent. Johan avait déposé plainte pour le viol qu'il avait subi. Il n'a pas été suivi, il n'a pas été écouté par les magistrats. Sa plainte a été classée sans suite au parquet de Bordeaux. Et il en a ressenti une espèce d'injustice monstrueuse. Et il s'est fait justice lui-même. Et on assiste évidemment au passage de la vengeance privée.
Alors voilà, on va en parler après, bien sûr. Moi, je voudrais qu'on reparle de la famille encore. D'où vient le silence? Pourquoi cette chape de silence? De quoi est faite cette honte?
Mais un enfant d'abord, si vous voulez, ouais, a peur de ne pas être cru. Ouais. Première chose. Bon, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. C'est le huis clos du viol. C'est la parole du violeur contre celle du violé. Bon, donc il a peur de ne pas être cru. Il a peur de ne pas être cru par sa famille. Il a peur de ne pas être cru par les services de police. Il a peur de ne pas être cru par son environnement scolaire, etc., etc. La deuxième chose, c'est que cet enfant a peur, en parlant, de détruire sa famille. Parce que sa parole va entraîner quoi? Va entraîner chez le père, chez son père, le père de Johan, pourrait entraîner une vengeance de la part du père, pourrait entraîner des problèmes de justice, pourrait entraîner des problèmes de police, et il ne veut pas, si vous voulez, quelque part détruire cette équilibre familiale. Et donc il se replie sur lui-même.
Donc il n'a plus de temps, il n'a plus de souvenirs, pas d'avenir, il n'a plus d'espace, il n'a plus de corps, il ne sait plus où il habite, hein, finalement, parce qu'il habite dans une espèce de taudis, vous le dites, hein, d'ailleurs, ils essayent de pousser le canapé pour regarder la télé avec sa femme qui n'y comprend rien.
Je suis allée voir son appartement.
Oui, c'est un vrai appartement, entre guillemets.
Oui, alors c'est une petite résidence, comme je l'ai décrit. Oui. C'est minuscule. On étouffe. Il n'y a qu'une petite baie vitrée sur un petit jardinet brûlé de soleil, j'y suis allée en été. Et puis, c'est triste comme environnement, très triste. Alors, il y a juste la place pour la télé, effectivement, et le vieux canapé avachi, sur lequel il s'étale tous les soirs, devant un verre de whisky, parce qu'évidemment, vous avez compris que l'alcool, l'aide. Enfin, il pense
qu'il a valu des retraites permis,
peut l'aider à oublier, comme Mohamed Ali, d'ailleurs, qui avait subi un viol, évidemment, dans son enfance, qui en a parlé à la télévision, en disant qu'il se réfugiait dans le whisky. Il y a, évidemment, des comportements déviants à la suite d'un viol. Il peut y avoir des comportements déviants.
Est-ce que ce n'est pas, j'allais dire, un crime encore plus grand que le meurtre, finalement? Parce que c'est vous qui êtes dans le symbole aussi. Hein,
on ne peut pas comparer, c'est la rien comparable. Si vous voulez, le meurtre se finit, malheureusement en drame humain. Là, si vous voulez, le viol, c'est plus insidieux que le meurtre. Le meurtre, on peut, en tant qu'avocat général de cour d'assises, le décrypter beaucoup plus facilement. Le viol, c'est beaucoup plus difficile parce que ça fait appel à une certaine psychologie des acteurs et ça fait appel à un décryptage, encore une fois, des deux paroles, l'une en face de l'autre.
On parle de la préface, quand même. On dit un mot sur la préface?
Si vous voulez.
Bah ouais, Roland Dumas. Bon, vous lui avez téléphoné, vous dites, tiens...
Non, je n'ai pas téléphoné comme ça, je vous rassure. Non. Je ne me permettrai pas.
Comment ça se fait, comment s'est fait cette préface?
Écoutez, je le connaissais par une amie. Mmh. J'ai déjeuné avec lui à Paris. On l'a sympathisé, parce que c'est un vieux monsieur qui, par moment, évidemment, a des propos un petit peu surprenants, mais bon. Mais qui, à d'autres moments, est extrêmement intéressant, parce qu'il a une carrière d'avocat absolument brillante derrière lui. Et on a parlé du viol. Et ça m'a intéressé parce qu'il avait une façon de décrypter toutes les affaires, évidemment, où il avait plaidé, qui était absolument remarquable. C'est un homme qui écrit. En plus, c'est un écrivain connu, reconnu par ses pairs. Et en plus, c'est un homme adorable parce qu'il m'a fait cette préface sur son lit d'hôpital. Il a 94 ans. Voilà.
Que chacun, dans le secret de sa réflexion la plus intime, se dise ce qu'il pense d'une juste réprimande et d'une juste réparation. Voilà ce qu'écrit Roland Dumas. Vous avez le même avis que lui ? Qu'est-ce qu'il en pense, lui ?
Bien sûr que j'ai le même avis que lui. On a discuté, bien sûr.
Oui. Ouais, il faut faire quoi, alors ?
Il faut faire quoi ? Sur quel plan ?
La juste réprimande, la juste réparation.
C'est comment il faut faire quoi ? Eh bien, mais Johan est sorti le soir même. J'ai tenu compte du fait qu'il avait été violé. Mmh. J'ai fustigé son violeur à l'audience. Pour lui dire, monsieur, voilà où on en vient, à quelles extrémités, quand on ne reconnaît pas le viol qu'on a fait subir à un enfant.
Alors, on a parlé du violeur, on a parlé du violé, on parle un peu quand même de la suite du livre, sans raconter. Johan ne peut pas exister, parce qu'il ne peut pas être reconnu par les autres. Celui qui doit lui donner son existence, sa reconnaissance, l'a violé.
Johan est malade, c'est un malade.
Voilà,
il est malade.
Et il ne peut réexister qu'en commettant un crime, somme toute. Je n'en raconte pas trop, là. Vous me dites, hein.
Il pourrait exister qu'en commettant un crime. Non, c'est pas
ça. On ne sait pas s'il est mort ou pas mort.
Non, c'est
vous
pas ça.
Bien, vous n'avez
qu'à dire. Non, mais c'est pas ça. Il pourrait exister. Non, mais c'est pas ça.
Je n'ose pas en parler parce qu'on va raconter l'histoire.
Non, mais vous me dites qu'il pourrait exister qu'en commettant un crime. C'est pas du tout ça, sa démarche. Pas du tout, pas du tout. Ah ben non.
Alors c'est quoi ?
Il ne commet pas un crime pour exister. Il commet un crime pour être reconnu. C'est pas pareil.
Oui, mais exister, c'est être reconnu.
Non.
Ah bon ?
Non.
Reconnu par l'autre de son existence.
Être reconnu. Par rapport.
Vous me reconnaissez une existence, non, mais... Dominique. Moi, non, je vous reconnais une existence, voilà.
Non, d'accord, mais être reconnu, c'est autre chose.
Oui,
non, ça va encore au-delà.
Star,
être reconnu en tant que victime, évidemment.
Voilà. Donc, il se fait, c'est là où je voulais vous emmener, il se fait justice.
Oui.
Est-ce que c'est bien, normal, pas bien ? Est-ce qu'il faut faire ça ?
C'est pas à moi à dire si c'est bien, pas bien. Bon.
Là, vous avez l'air de dire que c'est plutôt
la morale,
pas mal.
La morale et le droit, c'est différent. Hein,
ah
voilà,
bon.
Déjà.
Attendez, quelle heure est-il ?
Le cercle de la morale est beaucoup plus important que celui du droit.
La morale et le droit, c'est pas la même chose.
Ah, non.
Je vais prendre des notes parce que vous avez dit, excusez-moi. Hein, je n'ai pas la même pratique que vous.
Alors, c'est sûr que lorsqu'on rentre dans la salle de la cour d'assises de Bordeaux,
c'est pas moral, mais il y a du droit.
Non, mais on a une connotation religieuse au plafond.
Bon, oui.
Voilà. On a des bandes de prêches en bois. On a des rites sacrificiels qui sont commis par des magistrats en robe rouge, rouge sang. Hein, voilà.
Le bouc émissaire.
Donc on a l'impression. Voilà. Donc on a l'impression quelque part que la justice se déguise et se pare en moralisatrice. Bon, mais c'est pas ça. C'est pas ça le propos. Le propos, c'est de dire qu'il y a des textes de loi. Le propos, c'est de dire que la vengeance privée ne peut pas se faire sans être punie quelque part. Sinon, alors, on assisterait à un chaos social sans précédent. Si tout le monde devait se faire justice soi-même. Mais le propos, c'est aussi de rajouter que lorsqu'on a une preuve d'injustice flagrante devant les yeux, avec un viol qui n'a pas été reconnu par l'instance judiciaire. On est obligé de faire la part des choses, c'est la fameuse balance, avec donc les deux poids que l'on met en présence, et avec la juste peine au bout.
Quelle différence vous faites, je vous tiens là, entre la morale et le droit, justement ? C'est très intéressant.
Je vais vous l'expliquer.
Oui, mais plus longuement, allez-y, développez, parce que c'est quand même intéressant d'avoir... Parce que quand même, un avocat général qui nous développe ça, c'est pas tous les jours, quoi.
Ah bon.
C'est plutôt des profs de philo ou autre.
La morale, encore une fois, la morale judéo-chrétienne, c'est un cercle concentrique qui est extrêmement grand, extrêmement vaste. Le droit a sa part de morale, forcément, mais beaucoup plus restreint. Dans la mesure où on ne doit pas faire intervenir des notions de morale au sein d'une décision judiciaire. Bon. On n'a pas à se faire les juges de la morale des autres. Simplement, on a à juger un acte tel qu'il nous est présenté, dans toute sa splendeur, dans toute son horreur, sans faire intervenir des notions de morale. Parce que sinon, les peines que l'on prononcerait, si vous voulez, seraient entachées par ces notions de morale qui n'ont rien à faire avec la loi et avec les principes juridiques.
On peut peut-être continuer sur des questions d'actualité en prenant si comme point de départ le livre.
En ce moment, je vous en suggère une qui serait peut-être pas mal.
Allez-y.
Vous avez en ce moment un débat très important sur l'imprescriptibilité des viols. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est à moi de vous poser la question.
Qu'en pensez-vous ?
Les viols imprescriptibles, non. parce que vous avez les crimes de guerre imprescriptibles, les crimes contre l'humanité, et ce serait quand même ramener les viols au même rang.
Qu'un crime de guerre et...
Qu'un crime contre l'humanité. Ouais, ouais. Auschwitz, etc. Non, non, ça ne va pas. Il y a, si vous voulez, quand même un décalage énorme entre les crimes contre l'humanité et les viols. Il ne faut pas non plus tout mélanger. Bon. Mais, par contre, décrypter pour le grand public les règles de prescription des viols, ce serait intéressant, parce que vous avez des aberrations dans la prescription de ces faits. Vous avez trois lois qui sont en jeu. Vous avez donc à examiner ces trois lois chaque fois que vous voulez savoir si un crime de viol est prescrit ou pas. Un crime de viol est prescrit selon que la personne a autorité sur l'enfant ou pas. Un crime de viol est prescrit suivant, évidemment, le temps et différemment des agressions sexuelles, qu'elles sont prescrites au bout de 3 ans, etc. etc. Bon. Donc, on a des tas de paramètres avec des tas de règles de prescription en matière de viol et d'agressions sexuelles qui sont à refondre, à mon avis, pour les rendre égalitaires. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et pour que le grand public, et notamment tous les gens qui sont violés, puissent y comprendre quelque chose. Parce que moi, j'ai vu des victimes arriver à l'audience qui ne savaient pas que les faits étaient prescrits pour elles.
D'accord. C'est ce qui fait, par exemple, on entend de plus en plus ressurgir certains témoignages. Alors là, c'est pour le moment, c'est l'Église catholique qui est mise en première ligne. Des gens qui viennent 20, 25 ans, 30 ans après témoigner et ça s'arrête là.
Et on leur dit, malheureusement, je dis bien, et on leur dit, votre affaire est prescrite et vous ne pouvez plus vous constituer partie civile.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de cette manière dont la parole, je ne sais pas s'il faut dire se libère, mais s'exprime en tout cas ?
C'est normal.
Est-ce que c'est un progrès ?
Non, mais vous avez votre part là-dedans. Oui, les médias, quand même, favorisent l'expression de la parole. C'est sûr. Y a tellement, si vous voulez, effectivement, de débats là-dessus, dans les médias, de débats sur tout ça, sur les viols par l'Église, etc., etc., que maintenant la parole se libère, forcément, hein, ça ne peut qu'inciter les gens à parler.
Est-ce que vous avez une sociologie du viol ? Est-ce que vous avez pu étudier ça ? Est-ce que vous êtes intéressé à cette question ? Qui, quoi, dans quel milieu, pourquoi, comment ?
Non, parce qu'il n'y a pas de milieu.
Ou est-ce que tout le monde est touché ?
Non, mais il n'y a pas de milieu particulier. Absolument pas. On connaît la problématique de M. de Villepin, moi avec son fils. Bon, voilà, il n'y a pas de milieu. Ça peut se passer n'importe où, n'importe quand.
Est-ce que le fait d'en parler, on dit souvent que non, le monde d'aujourd'hui est moins violent que le moins d'hier, simplement, aujourd'hui, la violence en entre.
Non, avant, on ne le savait pas. Avant, on se tirait dans les campagnes, bon, voilà. Avant, c'était des milieux ruraux. Bon, on montrait aux gamins les bêtes en train de s'accoupler, bon, voilà. Après, on faisait pareil, hein, voilà. On vivait tous dans la même pièce. Proximité des corps, proximité chômage. Alors évidemment, à l'heure actuelle, il y a le chômage, il y a le désinvestissement social de beaucoup de pères de famille. Malheureusement, il y a la boisson, il y a l'alcool. Il y a tous ces, si vous voulez, ces désinhibiteurs de passage à l'acte qui se mettent en place. Donc c'est pour ça peut-être que c'est plus fréquent, effectivement.
Vous avez écrit votre premier livre, vous aviez dit, par lassitude, je crois.
Hein, par ?
Par lassitude de la cour d'assises. Le premier. Oui, attendez, je regarde.
Ah non, je n'ai jamais dit ça.
Ouais. Non, vous êtes sûr ?
Non.
Je vais le retrouver, je suis formel. Premier livre, une lassitude des assises. Le deuxième, on n'est plus dans l'émotion.
Quoi ?
Vous aviez dit ça,
ouais. Replacez, s'il vous plaît, la lassitude des assises dans le contexte de la phrase. Soyez gentil.
Est-ce que vous étiez lassé des assises, alors ?
Absolument pas.
Non ?
C'était ma passion.
Si c'était à refaire ?
Ah, mais je repars tout de suite.
Moi, je reviens là-dessus. Comment on fait pour résister à ça ? Comment vous avez fait ? Comment vous êtes protégé ? Aujourd'hui, l'écriture, vous laissez pour les autres, ceux qui viennent.
Comme,
et c'est beau de vouloir transmettre.
Comme le dirait beaucoup mieux que moi Sartre, je dois avoir un surmoi particulièrement costaud.
Ouais. Vous aviez une famille aussi, quand même.
Oui, une famille de juristes.
On y revient, vous en parlez un peu ?
Oui, enfin, ça me fait de la peine, effectivement, d'évoquer mon père. Mais enfin, si vous y tenez, il était président de cour d'assises, effectivement. Mon grand-père était avocat et mon arrière-grand-père était avocat. Voilà.
Oui, donc...
Oui, ça forme le caractère.
Ouais. Non, parce que j'ai perdu mon père très tôt et je n'ai pas eu le temps d'échanger avec lui ce que j'aurais voulu échanger sur la fonction. Mm-hmm. Il ne se doutait pas que j'embrasserais cette fonction d'ailleurs. Il me destinait à l'art et notamment, il voulait absolument me faire passer des concours extrêmement difficiles. Je me suis contentée de mon cours de la magistrature.
Et ce livre, alors je suis un peu méchant, c'est vrai, je le reconnais. J'arrête pas de vous dire oui, c'est pour vous remonter le moral, entre guillemets, après ces années-là, c'est pour vous, c'est une fois. Pour ça, je dis lassitude des assises, l'émotion, etc. Non, c'est fait pour transmettre quand même une expérience. C'est ce que vous donnez aux autres quand vous écrivez ce livre. Dites-toi, le viol, ça se passe comme ça. N'hésitez pas à parler.
Non, on ne transmet pas une expérience quand on écrit un livre. Un livre, si vous voulez, c'est autre chose. On n'a pas l'impression de transmettre. Un livre, ça vous habite. Ça vous habite pendant des mois. Et d'ailleurs, on est passionné par le fait d'être investi, par toutes ces émotions, par cette écriture, par ce rendu que l'on essaie de rendre le plus proche possible de la réalité et des émotions que l'on ressent. Un livre, c'est quelque part envoûtant d'écrire un livre. C'est un moment magique. Celui où on couche sur le papier des bribes de souvenirs que l'on a ramassés inconsciemment et qui se retrouvent comme ça, étalés devant vous et qui vous échappent. Et ce qui est terrible, quand on a fini d'écrire ce livre et qu'on se retrouve sans écriture à porter et sans message à délivrer, c'est terrible le vide qui s'instaure chez l'écrivain.
Vous travaillez comment ?
Comment ?
Vous travaillez comment ? Le matin, le soir,
la nuit.
La journée, la nuit,
la
vous
nuit,
réveillez parce que vous n'avez plus, vous avez trois phrases à noter, non ? Comment vous faites ?
Ah oui, toujours. Dans un demi-sommeil, effectivement, je pense à des phrases et je vais les noter immédiatement, oui. Mm-hmm. C'est vrai. J'ai toujours un bloc-notes à côté de moi.
Vous avez le troisième en préparation ?
Le troisième est fini et le quatrième est en préparation.
Pardon, excusez-moi, je retarde encore une fois. Oui.
Vous êtes en retard.
Ça ne change pas trop.
Le troisième est fini. J'attends un éditeur digne de ce nom.
Hein, oui, voilà. Parce qu'alors vraiment, le bord de l'eau, ils y sont allés.
Qui est dans la salle et qui ne veut pas encore, qui trouve ça très intéressant, mais qui attend que celui-là, quand même, est paru. Et puis le quatrième, que j'écrirai à quatre mains avec mon compagnon Bernard Cato. Qui est un ancien commissaire de police central, sur un serial killer.
Un serial killer. Ah oui, d'accord.
On ne change pas les rôles, hein. On ne change jamais les rôles. Merci Thierry. Merci Thierry. Merci beaucoup. Et au prochain livre.